Vous écoutez RTL.
RTL.
Savez-vous que les enfants nés en Suisse dès l'an 2000 seront 1 sur 2 à atteindre 100 ans?
La curiosité est un vilain défaut.
Mais comment font-ils? Quelle nourriture ont-ils mangé? Bref, quel est le secret de leur longévité?
Sidonie Bonnec, Thomas Huc.
Ces questions, de nombreux scientifiques se les posent et ils explorent les régions du monde où le taux de centenaires est élevé, comme la Sardaigne, pour percer leur secret.
Comment vivre vieux et en bonne santé? Cette question, les humains se la posent depuis toujours et aujourd'hui, la science offre de multiples réponses. Bonjour Roland Portiche.
Bonjour.
Bienvenue. On est ravis de vous retrouver.
Vous êtes réalisateur de télévision, auteur. Vous avez justement, vous faites partie de ceux qui ont parcouru le monde pour rencontrer les spécialistes de l'allongement de la vie et vous avez aussi rencontré ces super centenaires, ceux qui ont approché ou dépassé le mur des 115 ans. C'est quoi ce mur? C'est une constatation en fait?
Écoutez, comme il y a un mur de la lumière, comme il y a un mur du son, il semblerait, d'après des chercheurs américains, qu'il y ait un mur de la longévité. Mmh. Et en gros, ce mur, il se situe à peu près à 115 ans. Alors évidemment, on peut essayer de le franchir, et c'est le sens des recherches actuelles, c'est d'essayer de franchir ce mur en essayant de comprendre comment fonctionne le vieillissement et d'y porter remède. Mais en gros, il y a ce mur des 115 ans qui a été brisé par des gens comme Jeanne Calment, qui, elle, est allée jusqu'à 122 ans, mais comme pour toutes les statistiques, il y a des exceptions.
Oui, et alors vous avez rencontré Jeanne Calment et d'autres super centenaires, notamment en Sardaigne. Déjà, est-ce qu'ils ont des points communs génétiques?
Oui, il semblerait qu'il y ait au moins deux points communs génétiques. C'est une recherche qui a été faite il y a une vingtaine d'années dans le cadre du CEPH, du Centre d'études du polymorphisme humain, où ils ont recueilli le sang d'une centaine de centenaires pour essayer de voir quelles étaient les différences avec les gens normaux. Ils ont trouvé deux gènes, l'un qui joue un rôle dans le transport du cholestérol et l'autre qui joue un rôle dans la dilatation des vaisseaux sanguins. Mais vous voyez, la nature est quand même extrêmement bizarre. Le deuxième gène, avant 90 ans, il joue un rôle important dans l'infarctus du myocarde.
Ah.
Bon, mais après 90 ans, il joue un rôle protecteur. Et allez comprendre.
Et alors, il y a aussi un autre facteur qui paraît hallucinant, c'est le caractère. Les super centenaires ont un caractère particulier, lequel?
Ça, c'est frappant. Ils sont durs.
Ils sont des casse-bonbons.
C'est frappant. J'ai vu, évidemment, ouais. J'étais un des derniers journalistes à avoir interviewé Jeanne Calment vers 120, 121 ans. Et puis, j'ai eu cette chance de suivre un spécialiste des super centenaires qui faisait sa tournée en Sardaigne.
Ouais.
Et donc, j'ai rencontré 7 ou 8 super centenaires, hein, pas des centenaires, des super centenaires.
Alors, ils étaient imbuvables, ces super centenaires?
Il y a un moment, évidemment, ça arrive vers 60, 70 ans,
ouais,
où votre caractère s'imprime sur votre visage, quoi. Et quand vous voyez tous ces gens-là, la caractéristique commune, c'est qu'ils étaient durs.
Vous dites c'est des emmerdeurs, on peut employer le mot.
Et il y a une logique entre le fait d'être un emmerdeur et de durer longtemps dans la vie?
Oui, je crois qu'il y a une logique, c'est-à-dire que ces gens-là déversent leur stress sur les autres.
Bon, bah si Denis, vous savez à quoi vous attendre maintenant.
Oui, salut Thomas.
Je vais devenir très désagréable.
Si j'y nous-mêmes.
Roland Portiche, la Sardaigne fait partie de ces zones bleues. Vous nous rappelez ce que c'est déjà, une zone bleue?
Il y en a 5 dans le monde, c'est des endroits, et ça, ça a été vérifié par des gens tout à fait sérieux, c'est pas des légendes, c'est des endroits où, en moyenne, les gens vivent plus longtemps qu'ailleurs. Il y a un taux de centenaires plus important qu'ailleurs. Mmh. Alors, il y en a 5 dans le monde, il y a Okinawa, l'île d'Okinawa, qui est très connue.
Donc on est au Japon, là.
Au Japon, ouais, bien entendu. Il y a la Sardaigne, que j'ai visitée longuement. Et, enfin, plutôt le nord de la Sardaigne. Mm-hmm. Pas toute la Sardaigne, mais le nord de la Sardaigne. Il y a une région, alors bizarrement, en plein milieu de McDonald's et de la Malbouffe, en Californie, à Loma Linda, qui est un endroit tout à fait privilégié où les gens... Précisément parce que ce sont des gens très religieux, vivent...
Et Roland Portiche, dans ces zones bleues, en fait, qu'est-ce qui se passe? Quel est le point commun? C'est la nourriture ou l'absence de stress un sale caractère en communauté?
Oui, ben, y a sûrement tout ça. Dans toutes les zones bleues qui frôlent les pays méditerranéens, je vous dirais qu'il y a le fameux régime méditerranéen. Mais à Loma Linda, en Californie, c'est pas ça. Non, il y a une chose qui semble tout à fait générale, c'est ce que les Espagnols appellent, enfin, à Loma Linda et en, au Costa Rica, on appelle ça le plan de vida, le plan de vie. À Okinawa, on appelle ça l'ikigai. C'est cette idée que même si vous avez 102 ans, le matin, quand vous vous levez, vous avez quelque chose à faire. Vous avez quelque chose à faire. Et surtout, la pire des choses, et je le dis pour ceux qui nous écoutent, c'est de se lever le matin et de se dire que qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire aujourd'hui.
Eh ben, écoutez, la curiosité sur RTL.
Et ça, c'est tous les jours, ça tombe bien, ça vous occupe jusqu'à 122 ans.
Et faire plein d'autres choses et mettre en pratique les bons conseils que vous publiez dans Les Enfants de Mathusalem, l'incroyable histoire de l'allongement de la vie. Roland Portiche, c'est aux éditions Stock. Alors, on y trouve aussi tous ces élixirs de vie éternelle que les humains ont cherché, du sang de gladiateur aux testicules de chimpanzé, en passant par la poudre d'or mélangée dans de l'alcool distillé. 1000 fois, on va tout goûter, c'est promis. Revue de détails à venir sur RTL.
Monsieur Martin, vous voulez donc que nous adoptions un décret visant à vous déclarer comme étant un être humain ?
RTL ?
Je reconnais que je suis toujours muni d'un cerveau positronique.
Et du fait de votre cerveau positronique, vous êtes, à tout point de vue, immortel.
Oui, monsieur.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Eh bien, Andrew, la société peut s'accommoder d'un robot immortel. Mais nous ne pouvons pas tolérer un immortel humain.
La curiosité est un vilain défaut.
L'incroyable histoire de l'allongement de la vie. On en rêve depuis des millénaires. C'est le thème de notre curiosité, le titre du livre de notre invité aussi, le réalisateur Roland Portiche. Et dans ce livre, on y trouve quelques potions absolument improbables, comme celle de Jean de Roquetaillade. Vous nous rappelez déjà qui est-il et quand il a vécu, ce monsieur ?
Il a vécu au XIVe siècle, c'était un alchimiste, parce que les alchimistes, évidemment, comme tout le monde, je dirais, parce que c'est vraiment une quête universelle, se sont intéressés à l'allongement de la vie. Alors eux, ils s'y sont intéressés avec leur propre savoir,
imagination. Hein.
Voilà,
qu'est-ce qu'il a inventé ?
Leur idée, c'était effectivement d'obtenir un élixir qui soit pratiquement délivré de toute impureté. Alors ils prenaient de l'eau de vie et puis ils la distillaient 100 000 fois de telle manière qu'ils obtiennent un élixir qui soit parfaitement pur, et c'est cet élixir qui était supposé...
Il l'a essayé sur lui, cet élixir, Jean de Roquetaillade ?
Il est mort en 59 ans, donc ça n'est pas terrible.
Ah, mais peut-être qu'à l'époque, c'était vieux, 59 ans, au XIVe siècle.
Pas si mal. C'était pas si mal, c'est vrai.
Cet élixir, c'est ce qu'on appelle la quintessence. C'est quoi la quintessence ?
La quintessence, c'est Luc Besson, hein, c'est le cinquième
c'est
élément.
Cinquième élément,
la quintessence, la cinquième, bon, voilà. Mais bon, il y a eu beaucoup d'idées pour essayer de d'allonger la vie.
Il rajoutait de la poudre d'or dans son...
Évidemment, parce que l'or était supposé être un élément particulièrement pur, et donc de la poudre d'or plus de l'eau de vie distillée, c'était supposé... Enfin bon, c'est pas ce qu'on a inventé de mieux. Hein.
Et on a vu il y a quelques semaines sur RTL que ça n'avait pas réussi à Diane de Poitiers, qui pensait se soigner avec de l'or.
Elle
et qui
a perdu ses cheveux, ses dents, sa peau.
Par en mourir. Avant de démontrer scientifiquement, on le sait aujourd'hui, pourquoi il est vital, les humains ont compris que le sang, c'est la vie. Et alors, ils en faisaient de sales usages. Par exemple, les Romains de l'Antiquité avec les gladiateurs. Vous pouvez nous raconter ça ?
Eh oui, parce que le sang de gladiateurs était supposé être le sang de gens extraordinairement...
fort,
avec beaucoup
puissant,
d'énergie vitale. Et donc, dès que les combats étaient terminés... En général, les combats de gladiateurs ne se terminaient pas par la mort des gladiateurs. Ça coûtait très cher, un gladiateur, donc on évitait de les tuer. Mais enfin, ça arrivait.
Sauf quand le public le demandait.
Et voilà, quand le public était vraiment très exigeant, on était bien obligé de les égorger. Et quand on les égorgeait, la foule, et ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans les films de cinéma, la foule se déversait dans l'arène, et chacun essayait de récupérer un peu de sang de gladiateur sur un mouchoir, parce que le sang de gladiateur avait des vertus revitalisantes. Et les sénateurs, les vieux sénateurs, eux, se faisaient livrer à domicile des gobelets de sang de gladiateur qui étaient supposés avoir ces vertus.
Roland Portiche, autre scène absolument monstrueuse. On est au XVe siècle cette fois et c'est le pape Innocent VIII qui est en train de mourir. Il est en fin de vie. Que lui propose son équipe de médecins pour essayer de combattre cette mort et de repousser cette mort certaine ?
Alors, on lui propose une transfusion sanguine, ce qui peut être, bon, pourquoi pas, une bonne idée. Sauf que, la transfusion sanguine, il l'a faite avec trois jeunes enfants, parce qu'évidemment, ils étaient supposés avoir un sang de très bonne qualité.
Ils ont saigné des enfants, c'est ce que
vous
dites ?
Oui, ils ont saigné trois jeunes enfants, pratiquement à mort. Et puis, il s'est injecté le sang de ces trois enfants. Il a été bien puni. Alors, les enfants sont morts, évidemment. Hein. Mais lui a été bien puni parce que comme on ignorait à l'époque la notion de groupe sanguin, bah, il a été empoisonné dans les 48 heures et il est mort, lui aussi.
Et ben voilà. Bien fait pour ce pape. La comtesse Báthory, maintenant, Roland Portiche. Vous dites que c'est Dracula?
Oui, enfin, mais c'est peut-être l'ancêtre de Dracula, dans la mesure où cette jeune femme, qui était une jeune femme tout à fait normale, à partir du moment où son mari est mort à la guerre, elle a décidé de se laisser aller à ses fantasmes, et son fantasme, c'était de gagner l'éternelle jeunesse. Et pour elle, son idée, c'était de prendre des bains de sang. Des bains de sang qui étaient faits avec le sang de jeunes filles nubiles. Et ces jeunes filles étaient évidemment trucidées. La baignoire était remplie de sang et la comtesse Báthory se baignait dans ce breuvage.
Ça lui a réussi ?
Et ça lui a réussi. Figurez-vous. Bon. Oui, on dit que. Enfin bon, faut, oui. On dit qu'effectivement, à 50 ans, elle avait une peau de pêche. Mais c'est quand même pas une.
Il y a beaucoup de femmes qui ont des peaux de pêche à 50 ans et des hommes à 50 ans sans oui. faire des bains de sang.
Oui, en plus, la chose horrible, c'est qu'à la fin de ces bains, elle obligeait des servantes à lui lécher le corps pour enlever les restes de sang qui coulaient. Enfin, c'est épouvantable. Et donc, ça a été l'ancêtre de Dracula, dans la mesure où Bram Stoker, l'auteur de Dracula, s'est inspiré de son histoire.
Alors, vous savez, Roland Portiche, et c'est Coralie Lutinier qui me dit ça, qu'il y a toujours à la mode, c'est le vampire lifting, c'est une injection de son propre sang sur le visage pour défier la mort. Merci pour l'info,
voilà, écoutez, Coralie. On va trouver d'autres conseils, alors, des bien meilleurs.
Heureusement, comment vivre vieux sans tuer son prochain, voilà. ni s'injecter son propre sang. Vous avez des conseils bienveillants et sains qu'on peut tous appliquer. C'est dans un instant sur RTL. Restez avec nous, les curieux.
RTL.
C'est vraiment ce que tu voudrais ? Vivre pendant 14 000 ans ?
Je ne sais pas. Pourquoi pas ? Si je pouvais vivre autant de temps et rester en bonne santé, alors ?
Ouais, je trouve que ce serait une chance.
Eh bien, j'ai eu cette chance.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Aurais-tu entamé le whisky avant qu'on arrive ?
Tous les 10 ans environ, quand les gens commencent à remarquer que je ne vieillis pas, je m'en vais.
La curiosité est un vilain défaut.
Quoi ?
John vient de nous révéler à l'instant qu'il a 14 000 ans.
Oh, John, entre nous, tu fais tout juste 900 ans.
Extrait du film The Man from Earth. C'est vrai que devenir un alors là, c'est même pas un super centenaire, c'est un super millénaire. Vivre longtemps en bonne santé, c'est un des rêves de l'humanité. Notre invité enquête depuis 15 ans sur les techniques pour y parvenir. Roland Portiche, vous suivez notamment un traitement à base d'antioxydants. On va prendre le temps d'expliquer et de comprendre de quoi il s'agit. Et on commence par expliquer la théorie sur le vieillissement qui serait provoqué par une oxydation. C'est quoi cette théorie qu'il a présentée ?
Alors, c'est une théorie qui a eu son heure de gloire dans les années 80-90. Moi, je fais partie de la génération du baby-boom. Et à l'époque, on croyait qu'on allait guérir la mort grâce aux antioxydants. Il n'y a que vraiment très fort. Hein. Aujourd'hui, on en est quand même un petit peu revenu. Ben, figurez-vous que c'est un chimiste qui a trouvé ça parce qu'il se posait des questions sur ce qui provoque l'usure du caoutchouc. Et puis, il s'est rendu compte que c'était effectivement l'oxydation qui provoquait l'usure du caoutchouc, c'est-à-dire des molécules d'oxygène qui étaient devenues orphelines et qui arrachaient des électrons à leurs voisines.
Et nous, on est en caoutchouc, Roland Portiche.
Nos organismes biologiques fonctionnent un peu comme effectivement le caoutchouc de ce point de vue. Et donc l'oxygène, par exemple, dû à la respiration ou à la nourriture, qui sert à brûler la nourriture, provoque effectivement une usure de l'organisme, comme pour le caoutchouc.
Alors, quels sont ces antioxydants et comment vous les prenez ? Vous continuez de les prendre ? Ça ressemble à quoi ? Et qu'est-ce qu'on pourrait prendre, nous ?
Les antioxydants, manger 5 légumes et fruits par jour.
Ah déjà, oui.
Il y a ceux qui sont
dans la nature, déjà,
oui,
c'est bien.
Oui, déjà, vous trouvez tous ceux qui sont dans la nature. Évidemment, c'est le principal antioxydant, c'est la vitamine C. Hein. Mais le problème, c'est que...
Donc, kiwi, orange, voilà, les agrumes, les oranges, tous les fruits, d'ailleurs.
Alors, tout ça, c'est très bien. Et les médecins français vous diront, mais mangez équilibré, vous n'aurez pas besoin de prendre des antioxydants artificiels.
Vous prenez une petite pilule par jour
Oui, j'en prends 18, moi. Alors, j'en prends 18 chaque jour. Oui. J'en prends 18 chaque jour depuis 2003, depuis que j'avais fait un reportage sur cette question. Et donc, je fais ça en liaison avec un médecin qui me suit. Et donc, il y a des antioxydants, il y a des hormones, etc.
Ça joue sur votre forme au quotidien aussi. Vous êtes, par rapport aux hommes du même âge que vous, vous trouvez que vous êtes plus en forme que...
Moi, je trouve qu'il a la pêche, Roland Portiche.
Oui, voilà. Je vais vous dire, je ne vous dirai pas mon âge, mais enfin, il est quand même très avancé. Et puis surtout, alors, si vous voulez, je vous donne... Un petit truc.
Allez-y.
Un petit truc à faire. C'est ceux qui...
Bon, on va le faire en direct.
Des grands spécialistes. Vous posez votre main sur votre table et avec l'autre main, vous pincez
Attendez, je vais passer Thomas, j'en rêve.
Il vous restez 10 secondes comme ça.
Aïe.
Au bout de 10 secondes...
Tout le monde se pince dans le studio.
Voilà, vous arrêtez et vous voyez en combien de temps la peau se rétablit. Eh bien, si vous avez un corps qui n'est pas trop oxydé... Ben, ça se rétablit en moins de 15 secondes.
Bon, tu t'as si ça prend plus de temps... Moins 9, mais c'est normal, j'ai 10 ans de plus que toi.
Il faudrait quand même voir le... Ah, bon. Alors, il y a les antioxydants naturels, évidemment, qu'on trouve dans les fruits et légumes, et puis il y a les antioxydants artificiels. Les médecins vous diront, attention, vous n'avez pas besoin d'antioxydants artificiels, la nature suffit, mais qui mange équilibré chaque jour de sa vie. Oh, la plupart du temps, on mange déséquilibré, on mange très peu varié, et souvent, on mange de manière compulsive.
Et trop, parfois, aussi.
Il y a de plus en plus de Français qui, quand même, font très, très attention à ce qu'ils mangent. Oui. Mais c'est vrai, alors, sur la quantité, ça, c'est un autre élément qui est passionnant dans votre livre, Les enfants de Mathusalem, chez Stock, c'est les théories sur le fait de manger moins. Combien, selon ces théories, faut-il de calories par jour ? Moi, j'ai entendu que on pouvait être à 2500 calories jour et que voilà. Si on...
Alors là, ce sera très bon pour un régime. Hein, ça épuisera, ça fatiguera moins votre corps, mais vous rajeunirez pas comme ça. Si vous voulez vraiment rajeunir, et ça, on l'a découvert vraiment depuis les années 50, mais même avant, c'est qu'il faut manger beaucoup moins. Et c'est donc un médecin qui s'appelle Roy Bedford dans les années 50-60 aux États-Unis qui a imaginé ce qu'il appelle la restriction calorique. Pourquoi c'est très important la restriction calorique ? C'est que si vous mangez vraiment beaucoup moins, c'est-à-dire autour de 1000 calories par jour,
mais c'est que dalle,
vous
ça.
Donnez un signal à votre corps,
c'est rien, 1000 calories.
Et c'est le signal que votre corps doit rentrer en maintenance.
Mais attendez, c'est se sous-alimenter 1000 calories ou on peut manger normalement en mangeant 1000
calories ? C'est impraticable.
Donc ça veut dire qu'il faut calculer chaque jour ses calories, on a peut-être d'autres choses à faire aussi.
C'est impraticable. Et ce qui est tout à fait intéressant, mais ça je vous en parlerai tout à l'heure si vous voulez, c'est qu'un chercheur contemporain a trouvé le moyen de leurrer l'organisme et de lui faire croire qu'il est en restriction calorique.
On fait comment ?
C'est les recherches de David Sinclair qui consistent à donner une molécule qu'il a trouvée. Des essais sont actuellement en cours et qui font croire à l'organisme qu'il est en restriction calorique. Et l'organisme, à ce moment-là, déploie tout un plan de réparation de l'ADN.
Comme s'il était en maintenance.
Et donc, c'est cette réparation de l'ADN qui peut avoir un effet tout à fait intéressant sur le rajeunissement.
Allez, on continue de chercher comment rallonger notre espérance de vie.
Je suis passé trop fort.
Oui, vous êtes toujours livide, ça m'inquiète, non ? Allez, en bonne santé, bien sûr, sur RTL, on va très bien, rassurez-vous. Et puis juste après, on vous dit tout sur la fabrication du bulletin météo. Ça, c'est un truc sympa, faire le matin en se réveillant. Quel temps il fait ? Comment on va s'habiller ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Ça permet de rester jeune aussi. Allez, restez avec nous, les curieux.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Et toujours avec nous le réalisateur, l'auteur Roland Portiche pour explorer les dernières trouvailles en matière de longévité. Je crois, j'ai vu ça la semaine dernière, que l'espérance de vie, elle est plutôt en train de stagner en France. On a un peu le sentiment qu'on n'arrive pas à dépasser les 80 pour les hommes, 87 ou 8 pour les femmes. Pourquoi ?
Vous savez, il y a des raisons qui tiennent au mode de vie, bien entendu. Ouais. L'espérance de vie, je dirais, ça va, ça vient, c'est comme le climat. En vérité, elle augmente tendanciellement d'environ 3 mois par an. Ouais. Et je crois que ça va continuer.
Mais vous pensez que ça peut continuer ?
Oui, bien sûr, ça va continuer.
Au Moyen-Âge, on mourait autour des 40 ans, c'est ça, non ?
L'espérance de vie, à l'époque paléolithique, c'était 10-12 ans. C'est une moyenne, hein, c'est une moyenne. Oui. Mais 10-12 ans. Et donc aujourd'hui, on est à peu près 80 ans, un peu moins pour les hommes et un peu plus pour les femmes. Mmh. Donc ça va continuer, ça c'est vraisemblable, mais on va arriver à ce mur des 115 ans.
Est-ce qu'un jour, les hommes nous rattraperont, nous les femmes, vieilliront, mourront
Non, je crois qu'il y a des raisons hormonales qui font que, je veux dire, on est moins bien lotis que vous.
Allez, pour connaître, trouver d'autres options pour dépasser ce mur des 115 ans, qui sait ? Il y a votre livre, Roland Portiche, Les enfants de Mathusalem, l'incroyable histoire de l'allongement de la vie. C'est publié chez Stock. Merci encore.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.